foi et turbulence.
Bonjour, Mathieu Lavigne avec vous pour cette édition de Foi et Turbulence en formule grande entrevue, une formule présentée par l'Institut pastoral des Dominicains. Alors cette semaine, j'ai le bonheur d'accueillir dans la foisonnante bibliothèque du couvent Saint-Albert-le-Grand des Dominicains un des grands théologiens de notre époque, soit le père Christophe Théobald, professeur au Centre Sèvres à Paris et auteur de l'ouvrage Urgence pastorale. Comprendre, partager, Réformé, constitue le sous-titre. Un livre paru chez Bayer en 2017. Né à Cologne, en Allemagne, Christophe Théobald fait partie de la province de France de la Compagnie de Jésus. C'est donc à partir d'un double enracinement dans la culture allemande et française que le professeur Théobald s'interroge depuis une trentaine d'années tant sur la contribution de la tradition chrétienne à la vie du monde d'hier que sur son apport possible au monde d'aujourd'hui. En plus de ses travaux scientifiques et de son travail théologique, Christophe Théobald est également un homme de terrain très engagé au service des communautés locales, notamment dans le département de la Creuse en France. Nous avons enregistré cette entrevue en mars dernier alors que Christophe Théobald était de passage pour donner un cours à l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal, cours qui portait sur les urgences pastorales du moment présent. Voici une entrevue où se croisent lucidité et espoir sur l'avenir de l'Église, une entrevue où est lancé un appel à une transformation missionnaire des communautés chrétiennes. Christophe Théobald, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors, Père Christophe, avant de parler plus directement de votre ouvrage Urgence pastorale, j'aimerais débuter par une question plus personnelle. Dans un article où vous revenez sur votre parcours de théologien, vous notez que le mot « déplacement » dit au mieux ce qui vous est arrivé au pays de la théologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous indiquer quels furent les principaux déplacements?
Il y a d'abord le déplacement de mon pays d'origine. Mm-hmm. De l'Allemagne vers la France, la découverte d'un autre pays. Bien sûr, c'est à l'intérieur de l'Europe, mais c'est un pays comme très différent. Et avec une autre église, une église, je dirais, beaucoup moins organisée, peut-être, que l'église d'Allemagne, une église plus pauvre, peut-être aussi une église plus proche de la population. Et au moins, je dirais, à l'époque où je suis arrivé, dans les années 68-70, et finalement un déplacement proprement théologique, c'est-à-dire d'une théologie académique que je continue à faire, vers une théologie, je dirais, faite à la base, aussi oui. Avec les gens, dans la rencontre même. Et alors peut-être l'ultime déplacement, c'est-à-dire mon entrée chez les jésuites, c'est-à-dire au fond la recherche d'une expérience spirituelle, pour ne pas dire mystique, je dirais, qui doit être à mon avis toujours à la base d'une manière de faire de la théologie.
Mm-hmm. Et Christophe Théobald, dans votre ouvrage intitulé « Urgence pastorale », vous proposez une démarche en trois temps. Premièrement, comprendre. Deuxièmement, partager. Troisièmement, réformer. Donc, une démarche qui n'est pas sans rappeler le voir, juger, agir de l'action catholique. Commençons avec ce premier temps, celui de la compréhension. Donc, il s'agit ici de s'asseoir et de poser un diagnostic sur nos sociétés, sur le contexte marquant la possibilité d'un accueil de l'Évangile aujourd'hui. Alors, quel diagnostic posez-vous?
Alors, je dirais peut-être plusieurs éléments très rapidement. D'abord, évidemment, nous vivons en Europe, mais sans doute aussi au Québec, dans des sociétés sécularisées. C'est sans doute, je dirais, la toute première chose à dire, des sociétés laïques aussi, d'une manière ou d'une autre, même s'il y a plusieurs formes de laïcité. Et ce sont des sociétés, je dirais, dans lesquelles, au fond, le christianisme est devenu une minorité. Et je dirais avec un double effet, c'est-à-dire le premier effet, c'est ce que la sociologue Danielle Avieux-Léger a appelé exculturation, c'est-à-dire une sorte de fossé culturel entre la tradition chrétienne et la vie quotidienne des gens, et ça produit aussi un deuxième effet, c'est-à-dire nous sommes devenus une église minoritaire. Et depuis déjà de longues années, un grand théologien qui est mort maintenant appelait ça au fond une église en diaspora. Mm-hmm. Nous sommes devenus une église en diaspora. Et ça veut dire avec le risque, évidemment, que nous devenons une église sectaire, c'est-à-dire qui se referme, un ghetto.
Il y a un risque. Vous croyez qu'il y a un risque, justement, de fermeture?
Ah oui, je dirais, c'est lié au phénomène même de diaspora. C'est-à-dire, quand une communauté devient plus petite et n'a plus pignon sur rue, n'a plus, la capacité d'imprégner la culture environnante, alors du coup, on a des phénomènes de fermeture mm-hmm. possibles.
Oui.
Mais on a aussi des possibilités d'ouverture. Le problème, c'est de devenir une minorité signifiante.
Hein? Oui, oui, et porteuse d'espoir.
Voilà, d'espoir, oui. D'espérance. Oui. Tout à fait.
Et dans le diagnostic que vous posez sur nos sociétés, dans votre ouvrage « Urgence pastorale », vous notez ce que vous appelez une culture de laïcité en souffrance. Alors, qu'est-ce qui vous permet de poser ce diagnostic? Quels sont les signes de cette laïcité en souffrance?
C'est-à-dire, nos sociétés laïques, je parle évidemment un peu de la France, mais aussi de la Belgique, des Pays-Bas, peut-être peut-on dire la même chose encore une fois du Québec, ce sont des sociétés qui se sont émancipées progressivement de la tradition chrétienne. Et cette émancipation n'est pas encore allée jusqu'au bout. Alors vous avez dans des sociétés, dans nos sociétés, des ressentiments vis-à-vis de la tradition chrétienne, mais qui sont aussi des manifestations de fragilité, parce que toutes nos sociétés se posent une difficile question dans le pluralisme religieux actuel. Quelle est la cohésion sociale quand il n'y a plus, de références religieuses transcendantes qui est à notre disposition, quand le nationalisme a aussi ses problèmes et ne peut plus être le ciment d'une société? Qu'est-ce qui fonde le vivre ensemble?
Oui. Oui, et nos sociétés peinent à voir dans les religions quelque chose qui peut être porteur, justement, d'une vision du vivre ensemble.
Oui, parce qu'en plus, il y en a plusieurs, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a évidemment, c'est ça toujours le problème, pour la société, hein, et pour les chrétiens aussi. C'est-à-dire, il faut apprendre à vivre avec des gens qui ont d'autres spiritualités, qui ont d'autres références religieuses, et pourtant continuer à les considérer comme des semblables.
Oui. Oui. Et dans votre diagnostic, dans votre ouvrage, vous évoquez notamment que le rapport à la mort est quelque chose qui pose problème. En tout cas, on a un rapport à la mort qui est peut-être à revoir dans notre société.
Oui, c'est devenu un problème central, n'est-ce pas? À la fois refoulé, parce que personne d'entre nous aime bien entendre parler de sa propre mort. Et c'est pas la première chose à laquelle on pense le matin quand on se lève.
Espérons-le, oui.
Oui, parce que quand la journée commence, mais en même temps, il y a des malades autour de nous, il y a des exclus, etc. Donc nous vivons un peu avec la mort. Mais au fond, c'est le problème que le fait que je n'ai qu'une seule vie, et ça vaut quand même pour nous tous, et l'évangile que nous proclamons, l'évangile de Dieu, doit rejoindre précisément ce fait-là.
Oui, et il y a aussi, ça amène un rapport peut-être à la technologie qui peut être problématique, ou du moins, ce refus de mourir, ça peut aussi nous amener sur les terrains un peu glissants du transhumanisme, notamment.
Oui, j'en parle assez longuement dans l'ouvrage aussi du transhumanisme. C'est-à-dire, au fond, je le mets ensemble quand même avec, un autre phénomène central dans nos sociétés, qui est la crise écologique.
Oui.
Et c'est quelque chose de tout à fait contradictoire. À la fois, on sait bien ce que c'est la crise écologique et qui demanderait, des renoncements tout à fait considérables, on le voit à l'heure actuelle, pour arriver à une transition énergétique, une transition démographique, etc. Et ça demanderait, des investissements énormes. Et au lieu de faire ça, nous investissons, dans des choses qui relèvent, évidemment, pas tout à fait de l'imaginaire, mais pour une large partie quand même. C'est-à-dire qu'on pousse jusqu'au bout un peu les thèses du transhumanisme. Et c'est là où on va bien, la société est acculée au phénomène de la limite.
Oui.
De la limite, et oui ou non, est-ce que nous voulons encore que des générations après nous puissent habiter sur cette planète que nous héritons d'une certaine manière? Et c'est là où la force de la tradition évangélique revient, c'est-à-dire toute l'Écriture nous dit, nous sommes que les héritiers je dirais, au fond de cette planète que nous avons reçue pour pouvoir la livrer comme habitable à d'autres générations.
Oui.
Et voyez, quand je dis ça, je parle déjà implicitement de ce que la tradition chrétienne appelle résurrection.
Oui, ah oui, oui.
Pour c'est-à-dire vous... une sorte de cohabitation mystérieuse, je dirais, des vivants et des morts. Ce qui, au fond, je dirais, une vieille croyance que l'humanité a toujours connue
oui.
et qui, d'une certaine manière, trouve tout à fait une nouvelle actualité. Nous sommes les héritiers et d'autres générations vont venir après nous.
Oui.
Et nous sommes, au fond, comment dire, un chaînon où il y a 4-5 générations qui cohabitent actuellement sur notre planète. Nous sommes les chaînons, voilà, de générations futures.
Oui.
Est-ce que nous en sommes conscients?
Je ne suis pas certain. Non, j'ai l'impression
non, justement, c'est
ça.
Nous ne le sommes pas, nous
c'est
le refoulons.
Oui, c'est ça.
Nous le savons, mais nous n'y croyons pas.
Oui, oui. C'est ça, on a la difficulté à s'inscrire dans
c'est
la longue durée.
Voilà, oui. C'est dramatique.
Mm-hmm. Et au niveau ecclésial, un diagnostic qui peut être posé, celui d'une crédibilité perdue, d'une crise de crédibilité dont souffre, entre autres, la vision chrétienne du monde. Comment expliquer cette perte de crédibilité?
Oui, je dirais, elle est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, évidemment, je dirais, la plus grave crise de crédibilité, c'est maintenant la crise de crédibilité, je dirais, des autorités, des pouvoirs dans l'Église, ce qu'on appelle le cléricalisme, la question des abus sexuels, etc., qui crée quand même un énorme discrédit sur les porteurs de l'Évangile.
Oui.
Mais comment dire, derrière cette crise-là, il y a une crise de crédibilité par rapport au fond, je dirais, ce qu'on pourrait appeler le mythe chrétien. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le message chrétien, ce n'est pas uniquement la figure de Jésus de Nazareth, mais c'est la manière de situer cette figure de Jésus de Nazareth, Christ et Fils unique de Dieu, croyons-nous, à l'intérieur, au fond, d'une vision d'ensemble du monde qui va du point alpha jusqu'au point oméga, comme disait Teilhard,
oui.
N'est-ce pas, je dirais, de la création jusqu'à la fin. Et donc, c'est au fond, comment dire, une structure globale. Et alors les gens n'y ont plus accès d'une certaine manière. Et alors que cette vision a une énorme, comment dire, plausibilité en même temps. Donc il faut la montrer aujourd'hui.
Oui.
Mais souvent c'est proclamé comme une sorte d'histoire, de mythe, histoire de salut très, très étranger à la vie
quotidienne,
très quotidienne des
oui.
gens.
Hein. Mm-hmm. Et... est-ce que cette perte de crédibilité ne s'accompagne pas d'une suspicion de nos sociétés par rapport à tout élan missionnaire, d'un certain discrédit de la notion de mission, justement?
Oui, oui. Ça, vous avez raison, je trouve, je suis extrêmement sensible à ce discrédit. C'est un mot très discrédité parce que nos contemporains identifient mission à prosélytisme.
Mmh, c'est ça.
C'est-à-dire, comme, au fond, comme une négation de l'altérité de l'autre et de sa liberté.
Oui.
Alors du coup, si on veut utiliser encore ce terme, il faut le réutiliser d'une autre manière. Et je dirais la première chose, la première expérience missionnaire, c'est au fond, comment dire, l'hospitalité. Hein?
Mm-hmm.
C'est-à-dire l'hospitalité que l'Église peut offrir à d'autres, mais aussi qu'elle quête d'une certaine manière auprès d'autres. En respectant radicalement la liberté d'autrui hein, et en annonçant, comment dire, une nouvelle ce qu'on appelle l'Évangile, une nouvelle de bonté radicale, toujours nouvelle, qui peut atteindre le cœur des gens, hein,
mm-hmm. oui,
et qui désire finalement la liberté des autres.
C'est ça, c'est ça. Donc là, on est loin de tout prosélytisme.
On est très loin du prosélytisme. Alors même si vous voyez un certain nombre de catholiques, je dirais, qui réactualisent aujourd'hui le mot mission,
mm-hmm.
et ils ont souvent une vision très stratégique, très...
Oui.
Oui, très stratégique et finalement prosélyte de la
oui,
mission.
Oui.
Alors, au cœur de la mission chrétienne, et ça c'est aussi notre expérience de Dieu, je dirais presque mystique, non pas presque, mais mystique, c'est la gratuité. Hein?
Mm-hmm. Oui, donc vraiment
d'aller... C'est la gratuité qui est ce qu'on appelle la grâce,
oui.
n'est-ce pas?
Donc aller vers l'autre, mais aussi accueillir de façon inconditionnelle.
Oui, inconditionnelle, n'est-ce pas? Et je dirais, on peut parler de l'hospitalité de Dieu, hein? Ce qui est peut-être la chose la plus grande qu'on peut dire de Dieu, c'est-à-dire qu'il se cache, précisément. C'est-à-dire qu'il ne nous oblige à rien.
Mm-hmm.
Il ne nous oblige à rien, voilà. Et donc, nous avons tout reçu gratuitement, la création, notre existence, l'autre, etc. Et alors c'est traversé évidemment par l'expérience du mal, cette mystérieuse expérience du mal, mais en même temps, comment dire, ultimement, l'existence humaine, on peut espérer qu'elle se termine avec une certaine gratitude quand même.
Oui, donc l'action de grâce là.
Ce qu'on peut appeler l'action de grâce,
oui.
Ce qui donnera Eucharistie dans la tradition chrétienne.
Oui. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que notre époque, du moins en Occident, est marquée par une certaine folklorisation des traditions religieuses, et peut-être plus spécifiquement chrétiennes, que les rituels ont perdu ce qu'ils pouvaient porter de transcendance?
Oui, ça c'est un grand problème, évidemment, un problème central, à mon avis, ce que vous soulignez, c'est-à-dire... On définit au fond, je dirais, la tradition chrétienne d'abord à travers des pratiques. Mm-hmm. Des pratiques rituelles, des pratiques éthiques. Et ça, c'est que je dirais un peu, peut-être un méfait de la modernité. C'est-à-dire, on définit plus la tradition chrétienne d'abord comme une expérience. Mm-hmm. Une expérience spirituelle, une expérience mystique. Oui. Vous savez que le pape François, dans Evangelii Gaudium, il a un chapitre, un ensemble de numéros sur la fraternité. Il parle de la mystique de la fraternité. Et donc c'est lié au fond, comment dire, à une manière de trouver Dieu quotidiennement en toute chose, en tout autre. Mais ça, vous ne pouvez pas le réduire à une pratique, il faut faire ceci ou cela.
Mm-hmm, oui.
Et donc la folklorisation, c'est l'effet d'une définition de la foi chrétienne, pour beaucoup de gens d'ailleurs, comme telle ou telle pratique.
Oui. Oui. Et Christophe Théobald, on approche de la pause musicale et l'occasion est trop belle d'évoquer votre amour de la musique et notamment celle de Bach, un compositeur sur lequel vous avez écrit dans le cadre de ce dialogue que vous avez engagé comme théologien avec l'art. Alors, pourquoi comme théologien vous êtes intéressé à Bach plus qu'à tout autre compositeur? Je sais que vous aimez beaucoup Mozart aussi.
Les modernes aussi.
Et les modernes aussi. et entre autres, vous êtes intéressé notamment aux passions de Bach. Peut-être nous en dire aussi un mot parce qu'on va en écouter un extrait. La pause musicale sera...
Ça me fait grand plaisir. Oui, non, mais je dirais Bach, évidemment, à mon avis, c'est le plus grand.
Rien de moins.
Non, il ne faudrait pas trop comparer non plus. C'est vrai. Mais je dirais, c'est une musique très hospitalière. Parce que, comment dire, c'était un homme, évidemment, du baroque, du XVIIIe siècle, première moitié, et comment dire, mais qui connaissait la musique de tout le monde, de tous. Et comment dire, il y a une sorte d'hospitalité par rapport à ça qui est absolument extraordinaire. Le style français, le style italien, le style anglais, le style du nord de l'Allemagne, du centre de l'Allemagne... Mm-hmm. Et évidemment, au centre de sa musique, je pense qu'il y a l'orgue.
Oui.
D'abord, l'orgue, comment dire, qui est un instrument cosmique. Et alors, ce que j'aime chez Bach, c'est au fond, comment dire, à la fois, c'est une musique cosmique, c'est l'ensemble, et en même temps, le tout petit, le plus petit. Et le plus petit, comment dire, le plus pauvre, c'est finalement la croix. C'est pas uniquement le symbole de la croix, mais c'est le crucifié. Et on a, comment dire, le crucifié dans cet événement qui devient finalement un signe, le signe de la croix, dans cette sorte de graphisme, presque, je pourrais dire, musical, il y a la totalité de l'univers qui s'y cache. Et ça, c'est la musique de Bach. Alors, à travers les harmonies, les silences, les mélismes aussi. Vous savez, la musique baroque, c'était une musique de figures. Des petites figures, au fond, qui sont reliées les unes aux autres. Et la figure centrale, c'est la figure de la croix.
Et l'expérience esthétique, d'ailleurs, vous avez écrit un livre sur le christianisme comme style.
Oui.
Donc, il y a aussi cet aspect que l'expérience artistique peut être aussi expérience spirituelle.
Oui. Oui, tout à fait. Je pense que c'est tout à fait décisif, c'est-à-dire, pour penser un peu à Kierkegaard ici, c'est-à-dire l'expérience éthique, l'expérience esthétique qui est premier, et ensuite l'expérience spirituelle et mystique. Hein. C'est-à-dire l'expérience esthétique demande à la fois qu'on entend la voix, la foi vient de l'écoute, ça c'est Luther qui a repris ça de l'Épître aux Romains, et donc la musique, dit Luther, c'est au fond l'expérience la plus proche de l'écoute, parce que ça prépare au fond le laboratoire du cœur pour que la parole de Dieu puisse advenir. Et en même temps, la musique, l'expérience esthétique, n'est pas l'expérience spirituelle ultimement. Après, il faut encore entendre Dieu lui-même parler.
Oui, oui. Christophe Théobald, on écoute donc un extrait de La Passion selon Saint Jean de Johann Sebastian Bach. Et au retour, on poursuit cette conversation. Vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence sur les ondes de Radio VM. Mathieu Lavigne au micro en compagnie du théologien jésuite Christophe Théobald, professeur au Centre Sèvres à Paris et auteur de l'ouvrage Urgence pastorale, livre paru chez Bayard en 2017. Le père Christophe Théobald était de passage à Montréal pour y donner un cours sur les urgences pastorales du moment présent, cours qui était donné à l'Institut pastoral des Dominicains. D'ailleurs, c'est dans la bibliothèque du couvent Saint-Albert-le-Grand des Dominicains que nous enregistrons cette entrevue. Alors, Christophe Théobald, dans votre ouvrage Urgence pastorale, vous proposez une démarche en trois temps: comprendre, étape dont nous avons discuté en première partie d'émission, suivie de partager et réformer. Alors, on va y aller avec le deuxième temps, celui du partage. Christophe Théobald, qu'est-ce qui doit être partagé exactement et pourquoi partager? Pourquoi partager alors que nos sociétés sont assez sceptiques face à toute démarche de transmission?
Oui, le partage, d'abord, je dirais, c'est pas comment dire déjà la transmission. Hein?
Ah oui, c'est pour vous...
Ah, je fais quand même, il y a une différence, oui. N'est-ce pas? C'est-à-dire, on partage un repas, on partage un voyage... Et je dirais, la première expérience du partage, c'est d'abord, comment dire, les parents avec les enfants, ou comment dire, une mère qui éduque son enfant seul, etc. C'est le partage d'une existence, le partage de la vie. Hein. Mm-hmm. Et donc, c'est au fond dans le partage de la vie que beaucoup de choses... se transmet, entre guillemets, par capillarité. Hein.
Oui.
Et donc, c'est peut-être ça que l'Église a d'ailleurs perdu, hein, parce que précisément, comment dire, dans une même famille, vous trouvez des personnes, je dirais, de spiritualité différente, de croyances parfois différentes, etc. Et le problème de la société, c'est que nous sommes à la fois devenus, comment dire, des nomades, ça ne veut pas dire que nous ne partageons plus rien, n'est-ce pas, mais avec beaucoup de gens différents, mais en même temps, nous sommes devenus aussi des monades, souvent. Et ce qui met quand même, je dirais, en péril, au fond, le vivre ensemble. Oui. Donc, je dirais, la première chose, je dirais, l'Église est advocate, je dirais, du partager ensemble, voilà. Et quand on regarde dans les évangiles, notamment dans l'évangile de Luc, je dirais, moi j'appelle ça parfois pour rire, la pastorale de la fourchette, c'est-à-dire, on voit bien, n'est-ce pas, que Jésus de Nazareth partage le repas avec nombre de gens d'abord. Vous voyez, donc une sorte de convivialité ou de commensualité. Et tout à l'heure, je parlais dans la première partie de l'émission d'hospitalité.
Oui, oui.
Vous voyez, c'est exactement ça. Et vient ensuite plutôt la question, oui, avec qui?
Oui.
Alors pourquoi? Vous voyez, parce que c'est nécessaire pour vivre. Mm-hmm. Et je dirais, c'est nécessaire en particulier dans des sociétés facilement soumises à la tribalisation, c'est-à-dire que l'hospitalité devient importante. Et dans le Nouveau Testament, donc, on voit bien, je dirais, Jésus de Nazareth, il tient pas des discours comme ça, de loin et abstrait, mais c'est la relation qui est décisive d'abord. Alors ensuite, si vous me demandez qu'est-ce qu'on partage, ben on partage l'Évangile. L'Évangile de Dieu d'abord.
Oui. On revient à la mission là.
On revient d'une certaine manière à la mission, mais vous voyez, je dirais, on s'est interrogé d'abord sur l'espace de la mission, et on s'est interrogé quand même, je dirais, sur le rapport entre l'Évangile et la vie quotidienne des gens.
Oui.
C'est ça qui est le point le plus difficile. C'est-à-dire, il faut commencer peut-être en Église aujourd'hui, chacun qui a une responsabilité, mais tout chrétien missionnaire, le disciple missionnaire, dit notre pape François, d'une Église en sortie, doit s'interroger d'abord, qu'est-ce que c'est la vie quotidienne?
Oui.
Qu'est-ce qui se passe dans notre vie quotidienne?
Oui.
Quoi c'est une bonne nouvelle qu'on peut entendre au cœur même de cette existence.
Oui. Et vous insistez aussi sur le fait que ce partage ou l'annonce de l'Évangile est une nécessité intérieure. Donc, ça répond un peu au pourquoi.
Oui. Alors, c'est une nécessité. Ça répond au pourquoi. Vous avez raison. Une nécessité intérieure parce que, si vous voulez, si on fait vraiment une expérience de Dieu aujourd'hui, et donc l'expérience d'un Dieu, on pourrait dire hospitalier d'une certaine manière. Je parlais tout à l'heure du Dieu caché, n'est-ce pas? C'est-à-dire, que tout nous est donné gratuitement. Hein. Et je crois que c'est ça qui caractérise les chrétiens. Cette foi en la gratuité, la grâce, comme on disait autrefois, en la gratuité, que tout est donné. Alors on ne peut pas ne pas, comment dire, partager ce qu'on a reçu. Et la panne de la transmission, c'est d'abord peut-être la panne, je dirais, de la rencontre, et la simple rencontre gratuite avec des gens qui ne sont pas de notre bord et qui ne sont pas chrétiens. Mais la panne de la transmission, c'est aussi souvent le fait que je n'ai pas moi-même fait une expérience de Dieu que je désire partager.
Et une fois cette expérience faite, on ne peut pas ne pas la partager.
Oui. Saint Paul a cette étonnante formule « Malheur à moi si je n'évangélise pas ».
Oui.
C'est une nécessité intérieure, vous le disiez. Une nécessité intérieure pour moi.
Et est-ce que vous diriez qu'il y a dans ce partage, dans cet appel au partage aussi, un apport intéressant à un nouvel humanisme?
Ah, le nouvel humanisme, c'est notre pape François qui a utilisé ce terme. Parce qu'évidemment, on pourrait dire, je veux dire, au moins en Europe, l'humanisme classique, il a échoué d'une certaine manière quand même. Parce que... il est devenu une sorte de résidu au moment de l'émancipation de nos sociétés européennes, de la tradition chrétienne. Et quand on pense que ça a produit la Première, la Deuxième Guerre mondiale à Auschwitz sur un terrain d'humanisme, c'est quand même difficile à comprendre. Alors du coup, comment dire, parler d'un nouvel humanisme, c'est au fond de réfléchir à nouveau frais, je dirais, quel type d'humanité... De quel type d'humanité nous parle la Bible? Quel est ce type d'humanité? Et au fond, comment dire, quel type d'humanité nous trouvons dans la figure même de Jésus de Nazareth?
Oui.
Et nous y trouvons, comment dire, je dirais, une véritable vie, un intérêt pour autrui. Nous y trouvons tout sauf, comment dire, un misérabilisme ou, comment dire, une mentalité sacrificielle, ascétique. On disait de lui, c'était un bon vivant quand même, Jésus de Nazareth. C'est assez surprenant, voici un ivrogne et un glouton qui mangent avec les pêcheurs et les prostituées et les publicains, ce qu'on colportait de lui.
Oui.
Alors, je ne dis pas comment dire, c'était ce qu'on colportait, mais ça veut dire qu'on avait quand même enregistré, c'était un homme qui savait rencontrer les autres.
Oui. Oui, l'être hospitalier par excellence.
Par excellence, oui. L'être hospitalier par excellence. Et comment dire qu'il savait, au fond, ce dont le cœur d'autrui avait besoin.
Oui.
Et à tous les niveaux de l'existence, la guérison, je dirais, parfois extérieure, intérieure, et finalement, en dernière instance, un désir, voilà. Un désir de Dieu.
Oui. D'une grande intensité.
Oui, c'est surprenant quand même, je dirais. Et ça, le nouvel humanisme, je dirais, au fond, encore une fois, l'Évangile survivra dans notre société, j'y crois, fermement, si, au fond, comment dire, l'Évangile rencontre, la véritable existence des gens, d'une manière très concrète.
Oui, oui. Et après avoir posé les questions du quoi et du pourquoi partager, on peut parler maintenant du comment partager. Alors, comment répondre à cet appel intérieur à annoncer l'Évangile tout en collant justement aux besoins de l'époque et en rendant le message audible?
Oui, je veux dire, ça veut dire, dans l'ensemble, au fond, comment dire, quand vous regardez le catéchisme de l'Église universelle, avec plus que 2000 articles, vous voyez, vous avez un ensemble de vérités qui vous sont exposées, c'est-à-dire, moi j'ai toujours l'image devant la tête, c'est-à-dire c'est des arbres qui cachent la forêt.
Oui.
C'est les arbres qui cachent la forêt, ça veut dire une sorte de disparition de la concentration sur l'essentiel. Où est l'essentiel, finalement? Et l'essentiel est extrêmement simple, finalement. C'est-à-dire, on peut le dire avec peu de mots, je le disais déjà, hein, l'évangile de Dieu, l'évangile que Dieu règne. Et je dirais, la réponse, c'est-à-dire le sentiment de gratitude, l'action de grâce, le Notre Père, vous voyez, c'est peu de formules, peu de mots. Hein. Et donc ça, c'est à mon avis une première nécessité tout à fait importante, voilà. Alors, vous savez, à Vatican II, on a trouvé un mot pour ça, la hiérarchie des vérités. C'est-à-dire, le pape François nous invite de nouveau, c'est-à-dire de veiller à ce que l'essentiel soit annoncé, pas le secondaire.
Donc il y a un choix à faire, il y a un choix, un discernement à faire aussi.
Il y a un discernement à faire, voilà. Et le discernement, voilà, il est à la fois théologique, je dirais même théologal, d'aller vers l'essentiel, et en même temps, le discernement va vers la personne qui est en face de moi,
oui.
Ou les personnes.
Oui. Et comment, dans votre ouvrage, vous parlez notamment de la foi élémentaire, une foi élémentaire dans la vie, et comment cette foi élémentaire peut être justement un lieu de rencontre oui. Entre l'Église et la société d'aujourd'hui.
C'est là où j'introduis, à mon avis, une distinction très importante aujourd'hui. Quand nous regardons le Nouveau Testament, les récits évangéliques, nous voyons bien qu'il n'y a pas uniquement des disciples et j'ai dit des apôtres, des gens qui suivent Jésus, Paul dirait qu'il l'imite, mais il y a aussi au fond des sympathisants.
Mm-hmm.
Et Jésus s'intéresse d'abord à eux. C'est-à-dire au fond la foule des gens, telle ou telle personne qui se singularise devant lui. Pensez par exemple à la femme hémorroïde ou ces quatre porteurs de quelqu'un qui ne peut plus marcher, il descend le grabat par en haut. Et on entend ici toujours Jésus utiliser une formule qu'il a inventée lui-même, « Mon fils, ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvé. » Et donc c'est au fond pas une foi, je dirais, christique, ou une foi, comment dire, qui s'exprimerait par un credo, mais c'est ce que j'appelle une foi élémentaire.
Mm-hmm.
Une foi élémentaire, c'est-à-dire au fond, c'est la foi dont tout être humain a besoin, pour aller au bout de son aventure d'existence. Parce que nous ne vivons pas uniquement avec un instinct de survie, comme les mammifères supérieurs. Ça, c'est, nous avons un instinct de survie, mais il y a des moments où l'instinct de survie ne nous peut plus nous porter et où il y a une sorte de foi élémentaire qui s'exprime de manière très multiple par un courage de faire ceci et cela.
Un don de soi.
Un don de soi, à un moment donné.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, finalement, par un acte qui dit, sans l'exprimer, oui, ça vaut la peine de vivre, d'aller jusqu'au bout.
Et
donc ça, c'est la foi élémentaire. Et au fond, Jésus est au service de ça.
Mm-hmm.
Alors, à côté, vous avez certains qui deviennent, moi j'appelle ça des chrétiens, parce que le mot chrétien est tellement galvaudé,
oui.
On est tout de suite dans une tribu à côté d'autres tribus. Non, c'est-à-dire chrétien, ça veut dire les gens du Christ, qui sont en relation avec lui, qui ne me préfèrent pas, dit-il, à son père et à sa mère, etc., n'est pas digne de moi et du règne de Dieu. Donc, on devient chrétien, mais devenir chrétien, c'est au fond exercer le ministère de Jésus, le ministère qu'il a exercé en Galilée, dans sa Galilée, et que nous devons exercer aujourd'hui dans la nôtre.
Mm-hmm.
Et donc je distingue ça.
Oui, et justement ce rapport au Christ, ça répond aussi au comment partager, c'est se centrer sur le Christ.
C'est centrer sur le Christ et d'apprendre de lui, dans la lecture des Écritures, comment me rapporter à autrui. Et ça veut dire d'abord, peut-être quand même, que je m'intéresse à autrui.
Oui. Oui.
Que je m'intéresse à autrui, gratuitement. Mm-hmm. Voyez.
Et c'est là, est-ce que c'est par là que passe une crédibilité regagnée pour l'Église?
C'est une crédibilité regagnée à travers les personnes. C'est une crédibilité aussi de l'Évangile,
mm-hmm.
dont nous sommes porteurs avec l'ensemble de l'Église qui est en jeu ici.
Oui.
Et c'est peut-être aussi ce que nous pouvons apporter à la société, que je caractérisais par ces deux mots, nomadiques, des nomades et des monades,
mm-hmm. oui.
et pour sortir d'un certain individualisme.
Oui. Et Christophe Théobald, nous arrivons tranquillement à la fin de ce parcours que vous nous proposez dans votre ouvrage Urgence pastorale. Donc, on arrive au troisième temps. Nous avons passé par le premier temps, comprendre. Deuxième temps, partager. Et on arrive au troisième temps, et non le moindre, réformer. Christophe Théobald, vous dédicacez votre ouvrage Urgence pastorale à nos sœurs et frères luthériens. Je vous cite ici. Alors, impossible de ne pas vous demander ce que vous puisez dans la réforme luthérienne. Quels sont les principaux apports de la réforme de Luther?
Alors, l'apport de la réforme luthérienne, c'est par exemple la musique de Bach.
On y revient.
Pour y revenir. Vous voyez, il y a un lien à ça, oui. N'est-ce pas? Et on est quand même à une époque œcuménique, mm-hmm. et j'écris le livre en 2017. Mm-hmm. Vous voyez, c'était l'année du 500e oui. anniversaire de la réforme luthérienne. Mm-hmm. Et donc, c'était une sorte de clin d'œil fraternel que je voulais lancer en leur direction. Et alors, je cite à plusieurs reprises Luther, mm-hmm. parce que je pense que ce qui caractérise au fond le luthéranisme et qui a été bien repris par le père Congar, dominicain, et qui a été repris au fond, comment dire, il a fait un livre, Vraie et fausse réforme de l'Église, et qui a été repris par Vatican II, la notion de réforme. C'est-à-dire, la réforme, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est pas uniquement rendre nos institutions plus efficaces, nos administrations, moins coûteuses, etc., etc. Non, la réforme, c'est un acte de conversion collective. Et c'est comme ça qu'est né le terme au XIe siècle, la réforme grégorienne, voilà. Donc il y a la réforme individuelle, c'est la conversion, croyez en l'évangile, convertissez-vous, et la réforme, c'est la conversion collective de l'Église, de croire en l'évangile réellement.
Oui.
Et donc Luther a pris ça très au sérieux. Et comment dire, comment il l'a fait, c'est-à-dire justement par un retour à l'essentiel. Mm-hmm. Et comme l'essentiel, je dirais, c'est l'évangile de Dieu, la voix vivante de l'évangile. L'essentiel, c'est une voix vivante à entendre aujourd'hui, qui a aussi une fonction critique. C'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure, dans la première partie, vous parliez de la folklorisation de la tradition chrétienne. Mm-hmm. Alors, la piété populaire est décisive. Vous voyez, ça c'est important, parce que, évidemment, depuis toujours, l'Église a utilisé les symboles qui sont autour de nous, l'eau, le feu, la lumière,
oui.
etc. Les bénédictions, c'est-à-dire dire bien des choses. Mais comment dire, quand le secondaire devient tout à coup essentiel, ça devient grave d'une certaine manière, et du coup, comment dire, la critique de l'évangile intervient. Et donc, toujours cette instance sur l'essentiel.
Oui.
Je pense que ça, c'est une instance luthérienne qu'on peut reprendre aujourd'hui. Hein.
Oui. Et Christophe Théobald, une autre inspiration majeure de votre appel à une réforme missionnaire, ben c'est le Concile Vatican II, sur lequel vous avez écrit également. Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui de compléter ce que Vatican II proposait comme réforme, ou plutôt d'actualiser Vatican II, de l'adapter à notre époque en reconnaissant ses impulsions, ses apports, mais peut-être aussi ses limites?
Oui, si vous voulez, il y a deux choses. C'est-à-dire, la première chose, évidemment, depuis Vatican II, ça fait bientôt 55
oui.
ans.
Mmh.
Et donc, la culture, ou les cultures, et les sociétés ont profondément changé. Hein. À l'époque, le grand adversaire, c'était l'athéisme, si
oui.
vous voulez. Et donc, on était encore dans un monde bipolaire, il ne faut pas oublier. On sortait de la colonisation. Alors maintenant, on habite, je dirais, dans un monde pluriel. Le pape François a utilisé cette métaphore du polyèdre. Le polyèdre, vous voyez, je dirais, il oppose à la sphère. Au fond, l'église de Vatican II, c'est encore une église de la sphère. Vous avez un point central au milieu et à l'équidistance par rapport à la surface, de tout point de la surface. Et si vous êtes au centre, vous pouvez mesurer au fond ce qui se passe sur la surface. Vous avez donc un catéchisme universel, vous avez un droit canonique universel, une liturgie universelle, et à la limite, tout pareil. Vous voyez, le polyèdre vous dit, vous êtes dans une société plurielle, radicalement plurielle, des cultures, et comment dire, le tout c'est comme à l'âge baroque, n'est-ce pas? Le tout réside dans chaque figure, dans chaque losange, dans chaque petite figure, au fond, qui forme une sorte de polyèdre. Il n'y a plus de centre, vous ne pouvez plus calculer d'une certaine manière à partir d'un centre, vous ne pouvez plus légiférer sur l'ensemble.
Oui.
Ça, c'est la grande différence par rapport à Vatican II. Et donc, du coup, comment dire, il y a un certain nombre de questions qu'il faut retraiter aujourd'hui d'une manière très approfondie.
Oui, parce qu'au temps de Vatican II, entre autres, la question écologique, elle était plus ou moins là.
Quasiment absente.
C'est ça.
Quasiment absente.
Oui.
Voilà. Donc, ça, c'est une des grandes questions. Mais j'ai dit, la vie quotidienne des gens était absente. Vous avez des grandes structures dans la constitution pastorale, dans la deuxième partie, Gaudium et Spes, vous voyez, là, vous avez des rapports hommes-femmes, le mariage, la culture, l'économie, l'État et la paix dans le monde. Mais vous n'avez pas les itinéraires, nos itinéraires, etc.
Donc, c'est en quelque sorte, le pape François vient actualiser ou amener, entre autres avec Laudato si, pour la question de l'environnement.
D'une certaine manière, réécrire.
Oui, oui.
Réécrire. La structure fondamentale, je dirais, elle reste la même, ce qui est la structure de la tradition. Il y a une évangile, il y a l'Église, et il y a les destinataires, les sociétés de l'évangile.
Oui.
Et nous devenons de plus en plus sensibles que les destinataires, ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, refluent sur la figure de l'Église et refluent sur l'interprétation de l'Évangile.
Oui. Et Christophe Théobald, concrètement sur le terrain, puisque vous y œuvrez, quelle forme pourrait prendre la réforme ou les réformes que vous souhaitez, que vous espérez?
C'est-à-dire, peut-être la première chose, une plus grande autonomie des églises locales et même à l'intérieur de nos églises locales des communautés, qu'on arrête à organiser l'église autour des ministères et prêtres disponibles, vous voyez.
Oui.
On ferme des communautés, etc. On met les eucharisties dominicales à un lieu central, de plus en plus central, vous voyez, on reproduit la sphère et non pas le polyèdre.
Oui.
Et donc ça, je dirais, c'est quand même la réforme la plus difficile. Donc ça veut dire qu'il faut autonomiser les communautés.
Oui.
Et peut-être, deuxièmement, de sortir aussi, comment dire, je dirais, de l'idée d'un clergé international, qui est au fond l'idée de Grégoire VII, vous voyez, du XIe siècle pour la première fois, et des communautés qui ne reproduisent plus des ministères, pour les animer, c'est quand même un problème aujourd'hui. Alors, peut-être faut-il analyser de près.
Oui.
Est-ce que peut-être la figure du ministère doit changer? Ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'on sorte de la sacramentalité du ministère. Mais, je veux dire, l'Eucharistie est plus centrale d'abord quand même que le ministère.
Oui. Il y a un élément sur lequel vous insistez, c'est l'égalité baptismale, notamment.
Voilà. Ça, c'est la grande idée, le grand principe du Concile Vatican II, le chapitre 2 de Lumen Gentium sur le peuple de Dieu, que le pape réactive avec force. Et donc, vous voyez, ça, c'est des réformes, mais qui sont des réformes concrètes, vous voyez. Je veux dire, vous avez dans une communauté, comment dire, un prêtre qui est convaincu vraiment jusqu'au fond de l'égalité baptismale, il va autoriser beaucoup de choses. Il ne va pas d'abord, faire ce que j'appelle le prêtre pivot dans mon livre. C'est-à-dire, il ne va pas faire tourner les gens autour de lui, mais il va plutôt s'effacer, c'est-à-dire pour autoriser, pour rendre possible, pour que les gens prennent des initiatives, etc.
Il devient passeur.
Oui, tout à fait.
Oui.
Le prêtre passeur, vous voyez.
Oui.
Alors, il y a Presbyterorum Ordinis, le texte sur le ministère et la vie des prêtres au numéro 6, il y a un texte magnifique là-dessus, qui est une sorte de résumé conciliaire. Donc, ça veut dire que les intuitions y étaient déjà à Vatican II.
Oui. Est-ce qu'on pourrait parler d'une hiérarchie inversée, en quelque sorte?
Ah, ça, c'est l'image que le pape François utilise,
n'est-ce pas,
dans un célèbre discours le 17 octobre 2015, c'est-à-dire c'est le jour où le synode, à l'époque sur la famille, va commémorer l'institution du synode romain par Paul VI. Et c'est là où il utilise l'idée de la pyramide inversée. C'est-à-dire la synodalité commence à la base, dans tous les conseils que nous avons dans nos paroisses, etc. Et après, il y a les différents niveaux de la synodalité. La synodalité au niveau du diocèse, au niveau de plusieurs églises particulières, locales, par exemple au niveau d'une nation ou la conférence épiscopale du Québec, et ensuite, sur le plan mondial, et il y a aussi au sein même du mouvement œcuménique une très importante synodalité avec les autres églises
oui.
à retrouver.
Et là, dans ces réformes, on peut penser qu'il y a une place accrue des laïcs qui doivent prendre davantage de place.
Vous savez,
forcément.
Je dirais, la réforme sera achevée, peut-être elle ne sera jamais achevée, parce que les relents de cléricalisme, ils sont archaïques en nous, n'est-ce pas ? On est rétabli continuellement des hiérarchies. Et d'une certaine manière, il faut aussi être réaliste, c'est-à-dire on a besoin... non pas comment dire d'hiérarchie, mais on a besoin de gens qui se consacrent à un ministère, voilà. Mmh. Mais elle sera terminée quand la notion de laïque disparaîtra.
Ah oui.
Ça veut dire quoi, n'est-ce pas?
Oui. Qu'est-ce que
vous
ça
voyez,
veut dire?
Si on dit l'égalité baptismale, ça veut dire tous les chrétiens sont laïcs. Mmh. À l'intérieur de la communauté, il y a tel ou tel ministère sacramentel qui est exercé, n'est-ce pas ? Mais je dis, il y a une sorte de... Qu'est-ce qui est premier ? Est-ce que ce qui fait notre égalité de chrétiens, ou est-ce que c'est la différence entre le laïc et le prêtre qui est mm-hmm. premier ?
Oui.
Non, c'est le baptême qui est premier.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un exemple concret que vous avez vu sur le terrain, notamment dans le département de la Creuse? Est-ce qu'il y a des exemples qui pourraient inspirer peut-être des communautés
Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples, n'est-ce pas? C'est-à-dire plutôt parfois dans des régions un peu retirées, plus mm-hmm. difficiles, où il y a très peu de moyens,
oui.
parce qu'on devient inventif.
Mm-hmm. Oui.
On devient inventif, oui. n'est-ce pas? C'est-à-dire comment... quand les paroisses sont agrandies, comment, je dirais, créer une proximité nouvelle sur place,
mm-hmm.
à travers, je dirais, une maison d'évangile, à travers des petites communautés de base. En Amérique latine, on a eu quand même beaucoup d'exemples de ce genre,
oui.
Déjà. Et maintenant, le pape va sans doute statuer un exemple, si je puis dire, en Amazonie, n'est-ce
oui.
pas
mm-hmm.
Et pour moi, pour la Creuse, c'est au fond l'Amazonie de la,
ah oui,
de la France, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on essaye un peu de vivre des choses. Mais là, ce qu'il faut vivre, c'est premièrement l'égalité, et donc le ministère au service, je dirais, des communautés, et deuxièmement, c'est-à-dire de discerner un peu les charismes des chrétiens qui sont là,
mm-hmm.
et des autres, et de veiller à la proximité
oui.
avec les gens, avec leurs questions,
mm-hmm.
d'être présent. Au fond, ben, le mot présence est magnifique quand même.
Oui. Oui. Et dans ce travail de réforme, dans ce travail sur le terrain, ou dans ce travail de réflexion, quel rapport entretenir avec la tradition? Parce que la tradition peut être un tremplin vers l'avenir, mais elle peut aussi être un carcan.
Oui, la tradition, vous voyez, elle nous est livrée, c'est l'héritage, pour être fructifié.
Mm-hmm.
Et donc, ça veut dire interpréter.
Oui.
Interpréter. Ça, c'est le point le plus important. Et on n'a pas habitué les chrétiens à faire cela. Mmh. Alors, c'est évidemment complexe, interpréter. Et ce que je disais tout à l'heure, le retour à l'essentiel, hein, fait partir de cet acte, la hiérarchie, vous voyez, des vérités. Le premier chapitre d'Evangelii Gaudium dit ça magnifiquement, mmh. avec très peu de mots, finalement.
Hein. Mmh.
Ça mérite d'être lu par les chrétiens. Donc, une tradition qu'on interprète. Et donc, au cœur de cette tradition, il y a évidemment l'Évangile, il y a les Écritures qu'il faut lire concrètement, il y a le symbole qu'il faut aussi interpréter aujourd'hui, mais il dit l'essentiel, vous
oui.
voyez. Hein? Et comment dire, au cœur de la tradition, il y a quand même ce que Jésus appelle déjà le discernement des signes des temps.
Oui, oui. Et Christophe Théobald, en terminant, où se dessine l'avenir pour l'Église?
Quel endroit?
Oui, ou ça peut être un endroit, mais ça peut être aussi un lieu plus symbolique.
Oui, je dirais, l'avenir, peut-être nos différents continents ont des atouts et des charismes propres. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est un peu difficile à dire. Je pense qu'il y a un avenir en Europe, parce que l'Europe, est le continent de la première christianisation. Et donc autour de la Méditerranée, l'élargissement progressif. Et donc l'Europe doit faire un travail qu'aucun autre continent ne peut faire, c'est-à-dire face à la sécularisation, à la laïcité, etc. C'est-à-dire de défaire un peu historiquement toute la tradition chrétienne. C'est un peu comme une pâte feuilletée, la tradition, oui, vous voyez. Oui. On en rajoute toujours des choses, n'est-ce pas, des couches. De défaire ça pour que, l'évangile peut être inculturé sur d'autres continents. Mm-hmm. Ça, c'est la tâche de l'Europe. Et je pense, si on revient un peu au terme que j'ai utilisé le début, c'est-à-dire le terme de diaspora, l'Église une minorité signifiante, je pense que l'Église d'Europe, dans les différents pays, a les moyens, si elle accepte la réforme que je viens de décrire un peu par quelques bribes, vous voyez. Alors ensuite, les autres continents ont aussi leur atout. L'Amérique latine nous l'a montré quand même avec Medellin, l'option préférentielle pour les pauvres, les communautés de base, la théologie de la libération, etc., etc. Et le pape François vient de l'Argentine, une théologie du peuple de Dieu, etc. Et on pourrait dire un peu décliner la même chose des autres continents aussi. C'est-à-dire, on est dans une phase extrêmement complexe, difficile, c'est-à-dire d'un christianisme qui est devenu mondial, qui est une grande chance, il est devenu mondial pour la première fois dans l'histoire, sans doute un peu grâce à l'ambiguïté de la colonisation, et un christianisme qui deviendra, à mon avis, partout un christianisme diasporique à l'avenir. Donc, au fond, le ferment, le sel, la lumière.
C'est plutôt positif, finalement.
Positif, mais minoritaire. Et il y a le père Aner qui était un peu un maître pour moi. Je l'ai rencontré encore, qui était au Concile. Il a utilisé ce terme, le christianisme d'avenir sera un christianisme de mystique ou il ne sera plus. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, les chrétiens d'avenir auront fait une véritable expérience de Dieu?
Donc la vie intérieure, on y revient. Hein?
Oui, une vie intérieure qui s'exprime,
oui,
dans un style de vie, dans une manière de vivre, dans une manière d'être au service de la société, dans une manière de faire communauté. Hein?
Ben Christophe Théobald, un grand, grand merci pour cette entrevue. Vraiment, ça a été une joie. Merci beaucoup.
Voilà. Merci, Mathieu, et bonne route à vous aussi.
Merci beaucoup. Alors, je rappelle que le père Christophe Théobald est jésuite, théologien, professeur au Centre Sèvres à Paris, qu'il est l'auteur de l'ouvrage « Urgence pastorale, comprendre, partager, réformer », livre paru chez Bayard en 2017. Le père Christophe Théobald était de passage à Montréal en mars dernier pour y donner un cours sur les urgences pastorales du moment présent. Pour tout savoir sur les cours qui seront donnés sous peu à l'Institut pastoral des Dominicains, visitez le www.ipastoral.ca. La semaine prochaine, la foi et turbulence, cette fois en formule table ronde, François Gloutenay sera entouré d'intervenants et d'intervenantes qui analyseront les moments forts de l'actualité sociale, politique et religieuse, tant nationale qu'internationale. Je m'appelle Mathieu Lavigne, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM. À bientôt.